sécheresse touche aujourd'hui plus de 40% des terres de la planète, des terres qui ne sont donc plus cultivables. C'est ce que l'on appelle la désertification, un phénomène qui s'étend rapidement et qui a des conséquences très concrètes pour plus de 250 millions de personnes dans le monde. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Patrice Burger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du CARI, le Centre d'Action et de Réalisation Internationale qui intervient dans les pays du Sud pour lutter contre la désertification. Vous êtes aussi responsable du groupe français de travail sur la désertification. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer qu'est-ce qu'on entend par désertification ?
Alors justement, Anne-Cécile disait à l'instant que c'était la sécheresse qui causait la désertification. En fait, on distingue scientifiquement la question de la sécheresse qui est ponctuelle et irrégulière et la désertification qui est un processus continu. Le processus, c'est celui qui détruit la vie des sols. Ça détruit, la désertification tue la fabrique du vivant que nous avons tous besoin pour survivre sur cette planète. Alors, la sécheresse, il y a une part importante, mais les mauvaises pratiques agricoles, la surconsommation de produits chimiques, l'utilisation abusive d'eau provoque aussi la désertification. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'eau peut provoquer la désertification. Bien sûr, les zones arides sont les premières visées, et aujourd'hui, la désertification affecte 30% de la surface des terres émergées de la planète et là où vivent à peu près 1,5 milliard de personnes parmi les plus pauvres du monde.
Donc c'est pas un phénomène naturel, enfin ça peut l'être, mais ce n'est pas forcément un phénomène d'usure naturelle.
Alors elle est définie scientifiquement ou par la Convention des Nations Unies de lutte contre la désertification, qui est l'instrument qui est censé s'occuper de ce problème depuis Rio, hein, c'est une des trois conventions qui est issue de Rio. Elle est définie comme la dégradation des terres sous l'impact des variations climatiques et sous l'impact des activités humaines. Donc on est en plein développement durable. Dès Rio, on avait les bases de ce qui allait devenir plus tard le développement durable.
Justement, cette convention a eu sa 9e conférence, là, qui s'est tenue du 21 septembre au 2 octobre en Argentine. Vous y étiez, Patrice Burger, qu'en est-il ressorti ?
Alors voilà, c'est une grande messe internationale, il y avait plus de 1500 participants. Bon, on est loin de la Convention climat qui en réunit quelquefois plus de 15 000. Mais enfin, les décideurs de la planète, tous les pays étaient réunis là. Il y a 193 pays partis qui ont signé cette convention. Il y a eu 36 décisions de prise. Il y a eu la première conférence scientifique, on peut s'étonner d'ailleurs, après 13 ans d'existence de cette convention. C'est la première fois qu'on a fait une conférence scientifique pour essayer d'en clarifier les tenants et les aboutissants pour avoir de meilleurs arguments, parce que ce sujet est un petit peu sous-estimé, a été longtemps sous-estimé dans les discussions internationales. Donc ce qu'on peut dire en termes de positif, cette première conférence scientifique avec des scientifiques du monde entier qui se sont réunis pour proposer un premier état de la situation. Ensuite, des décisions du type management des outils qui doivent gérer la convention, c'est-à-dire des institutions internationales, des Nations Unies, la convention.
Qui prouve qu'il y a une vraie prise de conscience.
Voilà. Un budget qui a été renouvelé pour les deux années à venir avec une légère hausse, qui veut dire que les pays quand même accordent un certain crédit à cet instrument qui a longtemps peiné un petit peu et qui continue d'être un petit peu à la peine. Et puis, pourquoi ne pas le dire, nous sommes très contents, nous autres ONG, d'avoir pu faire adopter une décision concernant la participation de la société civile, c'est-à-dire la participation de tous ces acteurs qui, sur le terrain, dans le moindre village en Afrique et ailleurs, sont les gens qui travaillent et qui luttent au quotidien contre ce processus de dégradation des terres qui ruine à la fois le potentiel économique et écologique local.
Alors justement, on vous propose dans cette émission, Patrice Burger, d'entendre des témoignages. On a des auditeurs qui avaient envie de parler avec vous de ce sujet, parce que c'est une réalité, vous le disiez, à laquelle sont confrontés des millions de personnes chaque jour dans leur pays. Nous sommes en ligne avec Mokhtar Doucouré de la région de Kayes au Mali. Bonjour Mokhtar.
Bonjour.
Bonjour. La région de Kayes est une région semi-désertique. Alors, comment est-ce que vous constatez les conséquences de la désertification sur le terrain ? Quels sont les changements qu'elle entraîne ?
Ok, merci. Je suis, comme vous l'avez si bien dit, de la région de Kayes. Qui est une région semi-désertique où les quantités d'eau diminuent d'année en année. Les arbres qui se raréfient également d'année en année. Et comme d'autres phénomènes que nous constatons, c'est la disparition des nappes phréatiques. Donc voilà en quelques points ce que je peux dire que je constate sur le terrain en termes de désertification.
Patrice Burger, ce que vient de décrire Mokhtar, là, c'est vraiment caractéristique de ce phénomène de désertification.
Oui, alors il se trouve que les zones sahéliennes sont particulièrement affectées. En plus, ce sont des zones extrêmement pauvres. Donc les reboisements de toute nature, mais avec les techniques de défense et de restauration des sols associés, telles que les haies brise-vent, telles que les diguettes anti-érosives, telles que le compostage pour éventuellement fertiliser les arbres, les techniques économes en eau, tout ça, en fait, ce sont toutes des mesures qui doivent être mises en place ensemble au niveau local et qui permettent déjà de maintenir des populations sur le territoire. Sinon, c'est de là que partent les 60 millions de migrants que l'on estime d'ici quelques années qui sortiront de ces zones, c'est parce qu'elles n'auront pas pu maintenir la terre sous leurs pieds.
Une des raisons donc de la migration dans les pays du Nord, c'est justement la désertification.
Tout à fait. Les comptes commencent à se faire et on a aujourd'hui de plus en plus d'indicateurs précis sur le nombre de personnes qui viennent de ces zones.
Mokhtar, vous vouliez poser deux questions à Patrice Burger. On vous écoute pour la première.
Merci. Avec son explication, cela m'amène quand même à poser un certain nombre de questions. Comme vous l'avez dit, ben, je les résume en deux. La première est relative à quelle espèce d'arbre M. Burger préconise pour qu'on puisse quand même essayer d'implanter dans ces régions afin de maintenir l'avancée du désert. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième est relative, nous sommes dans un phénomène de modernisation globale. Est-ce qu'il pense que dans d'autres pays où il y a le désert, qui ont su utiliser certains moyens pour mettre à profit le désert, ces techniques ne puissent pas être utilisées au niveau de nos régions en voie de développement également?
Vous pensez à quoi en particulier?
Et là, je pense, je prends l'exemple de la Libye, par exemple, qui est purement désertique, et la Libye qui a eu à utiliser un canal dans le plein milieu du désert, et la population qui s'y trouve qui profite. C'est vrai, c'est un investissement coûteux, mais je pense que c'est voilà un exemple que je cite. Est-ce qu'il pense que de telles techniques sont applicables dans ces régions?
Merci Mokhtar. Patrice Burger, alors, sur ces deux questions.
Alors, je commencerai par la deuxième. Il y a les techniques et il y a les politiques publiques. Je pense que c'est effectivement au niveau national qu'il faut agir d'abord. Et peut-être que beaucoup de pays du Sud ont eu tendance à attendre un petit peu que l'aide internationale ou les pays donateurs les appuient plus fortement. Moi, je voudrais lancer un appel suite à la COP9 qui vient de se tenir en Argentine, que vraiment les pays commencent le chemin, agissent avec leur population locale, agissent avec leurs familles et leurs ONG et commencent à montrer le chemin. C'est de cela que va dépendre les choses. L'aide internationale viendra et s'appuiera en son temps. La deuxième chose, sur les questions de
alors, juste agissent, ça veut dire quoi? Parce que...
Ça veut dire qu'il faut mettre en place les systèmes et les méthodes techniques jusqu'au plus petit village de plans d'occupation des sols, par exemple, zonés. Mettre en place aussi des systèmes de contrôle et de surveillance de la divagation des animaux. En fait, il y a des tas de règlements et de lois et de systèmes qui existent, mais qui ne sont pas appliqués. Donc, c'est aussi un petit peu une vacance de la puissance publique et une vacance de quelqu'un qui surveille l'intérêt général. Et je crois que ces pays-là ont beaucoup à faire, à montrer le chemin là-dessus et en impliquant les gens.
Est-ce que c'est pas justement une des limites de la Convention qui devrait peut-être se doter, je veux dire, d'un protocole de Kyoto de la désertification ou d'une action qui engagerait les pays membres de la Convention?
Alors, les pays ont été obligés par la Convention à écrire des plans d'action nationaux.
Malheureusement, on est un petit peu en train de tourner en rond. Les pays disent, nous, on a écrit les plans d'action nationaux, mais on n'a pas les moyens de les mettre en œuvre. Et les pays riches disent, mettez les plans d'action nationaux en œuvre et on vous soutiendra. Donc je crois que vraiment, comme c'est les pays du Sud qui sont les plus affectés, peut-être c'est vraiment eux qui doivent commencer et montrer le chemin.
Alors justement, pour montrer le chemin, il y avait cette question concrète de Mokhtar. Quel arbre planter ? Alors évidemment, ça dépend de chaque région. Lui, il pensait notamment, quand on a préparé cette émission, à l'eucalyptus.
L'eucalyptus a été longtemps promu comme un arbre un peu miracle, pour la simple et bonne raison qu'il pousse rapidement et qu'il pousse droit. Donc il fabrique du bois. Par contre, il a un énorme problème, c'est qu'il est fortement consommateur d'eau. Ah. Et puis il a un autre problème, dont on parle moins, c'est que là où tombent ses feuilles, il stérilise un petit peu les sols parce qu'il y a des essences là-dedans. Donc je pense que d'autres espèces d'arbres comme le prosopis encore d'autres, il y a toute une série d'arbres, mais qu'il faut chaque fois adapter en fonction des usages et en fonction de l'isoïète, c'est-à-dire de la pluviométrie locale. On ne plante pas le même arbre quand il pleut moins de 50 mm que là où il pleut 450 mm. Donc c'est toutes ces choses-là, en fait les techniques existent, c'est ça qui est extraordinaire. Le savoir existe, tout ça on le sait, il n'y a rien de nouveau, mais c'est la mise en œuvre qui pêche, et je crois que là, il y a vraiment un effort à faire aujourd'hui au niveau des pays. Concernant les bailleurs internationaux, je crois qu'ils n'agiront que s'ils voient qu'il y a un début d'exemple.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Brun, Arnaud Jouve.
Dans C'est pas du vent sur RFI, en compagnie aujourd'hui de Patrice Burger pour parler de désertification.
Alors, autre moyen de lutter contre la désertification, c'est la protection des zones humides. La convention Ramsar des Nations Unies vise à protéger ces zones humides, mais sur le terrain, c'est une bataille quotidienne. Nous sommes en ligne avec Adama Nana. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes directeur des études de la Fondation Naturama au Burkina Faso. Vous êtes à Ouagadougou, mais vous essayez de sauver la mare d'Oursi, qui se trouve dans la région de l'Oudalan, au nord du Burkina Faso. Une mare menacée de disparition à cause de l'avancée de la désertification, dites-vous.
Racontez-nous un peu.
Racontez-nous un petit peu ce qui se passe avec la mare d'Oursi actuellement.
Ok, merci bien, monsieur. Bon, comme vous le savez, la mare d'Oursi, c'est un joyau pour le Sahel burkinabé. Il fait 1595 hectares. C'est un site Ramsar, comme vous l'avez dit. Et en plus de ça, c'est une zone d'importance pour la conservation des oiseaux. Parce que c'est un site qui accueille les oiseaux migrateurs du paléarctique occidental. Donc, tels que la cigogne blanche, la tourterelle de bois, etc., etc.
Et cette mare, elle a tendance à disparaître aujourd'hui, c'est ça?
Oui, la mare d'Oursi aujourd'hui rencontre un certain nombre de problèmes qui sont liés d'une part à la baisse de la pluviométrie qui entraîne donc l'assèchement précoce, c'est-à-dire que la capacité de la mare à supporter la charge toute l'année commence à diminuer. Il y a aussi le phénomène de base lié à l'ensablement, dû à l'érosion pluviale, à l'érosion éolienne. Et la plus grande préoccupation que la mare rencontre aujourd'hui, c'est vraiment la question des dunes vives qui sont de plus en plus, dont on constate de plus en plus leur avancée vers la mare. Donc ça, c'est les facteurs climatiques auxquels la mare est confrontée. Bon, au niveau des activités humaines, il y a un certain nombre d'activités humaines qui compromettent aussi l'existence de la mare. C'est, d'une part, la surexploitation des ressources végétales pour des besoins de réalisation des haies et l'émondage des arbres pour les besoins de fourrage aérien. À partir du moment où c'est une zone qui est fortement dense au niveau du cheptel, ça veut dire que le fourrage herbacé à un certain moment ne suffit plus. Donc les éleveurs ont tendance à faire l'émondage des arbres pour répondre à ses besoins de fourrage pour le bétail.
Et qu'est-ce que vous faites alors pour essayer d'enrayer les difficultés que cette mare rencontre aujourd'hui?
Pour répondre.
Il faut dire que dans l'esprit de la convention, comme on le dit, la lutte contre la désertification, c'est d'abord essayer de mettre en valeur des activités intégrées de gestion des terres arides, etc.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'il faut engager des actions de prévention et de réduction de la dégradation. Et à ce niveau, naturellement, à participer et contribuer à l'élaboration du plan d'aménagement et de gestion participative de la mare. Ce plan qui est un document stratégique et un outil de planification à l'échelle régionale fixe en fait les grandes orientations qui puissent assurer une gestion intégrée et durable et même de façon consensuelle de cette mare dans le respect des politiques nationales.
D'accord. Donc, alors, Patrice Burger, vous connaissez très bien cette mare. Vous avez vécu à côté, je crois. C'est le hasard.
C'est extraordinaire parce que la mare d'Ourcy, moi j'ai vécu à Gorom-Gorom pendant 3 années du temps de Thomas Sankara. Et puis notamment, il y avait près de la mare d'Ourcy un responsable des éleveurs qui s'appelle Seydio Madian. Je ne sais pas s'il vit encore.
Est-ce qu'il vit encore? Vous connaissez Seydio Madian?
Enfin, s'il nous entend, on le salue.
Ouais, voilà. Et donc, le problème de la mare d'Ourcy, ça fait longtemps qu'il est posé. Moi, ce qui m'a frappé quand j'y étais, c'est que, d'abord, c'est très beau. Vous avez pas parlé de la beauté. C'est un paysage très beau. C'était un lieu que les gens allaient visiter. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait beaucoup de chercheurs qui étaient là, et notamment les chercheurs de l'Orstom, de notre office de recherche, et ensuite de l'IRD. Et je me demande si c'est pas la mare la plus étudiée au monde. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que quand j'ai vu les piles de documents et de rapports scientifiques sur cette mare, de travaux qui étaient faits, et que les populations, finalement, n'en bénéficiaient pas directement. Alors ça, c'est un autre coup de gueule que j'aurais envie de pousser ici, dans votre émission. C'est-à-dire, tous ces scientifiques, tous ces travaux scientifiques, ces innombrables, peu importe qu'ils aient été faits par les Français ou par les Burkinabés, mais tout ce qui existe en termes de connaissances sur ces régions et sur ces territoires particuliers, il faut l'utiliser. Or, j'ai toujours l'impression qu'on recommence à zéro, que c'est toujours, finalement, les ONG, les groupements locaux, les petites associations qui essaye de recommencer quelque chose, alors qu'on a des quantités d'informations qui ne sont pas utilisées. Donc je pousse un autre appel. Il faut que l'information scientifique disponible, et notamment sur la mare d'Ourcy, soit utilisée et vous soit accessible.
Parce qu'il y a d'autres mares à sauver, hein.
Certainement. J'ai vu récemment le maire de Dori, Arba Diallo, l'ancien secrétaire exécutif de la Convention désertification, qui lui aussi voudrait aménager, restaurer la mare de Dori, et il cherche d'ailleurs à cet égard une coopération décentralisée avec des autorités locales françaises.
Adama, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Patrice Burger?
En partie, oui. Et c'est évident que beaucoup de recherches ont été menées sur la mare d'Ourcy, mais je crois que c'est l'ensemble de ces informations quand même participent à l'alimentation de la réflexion sur les problématiques de gestion de la mare. Dans le cadre de l'élaboration donc du plan d'aménagement, comme je l'avais tantôt dit, ces informations scientifiques ont été bien valorisées. Et c'est vrai que au niveau de l'appui aux communautés, comme il a dit, il y a peu de choses qui sont faites, mais je crois que c'est ce côté que nous essayons de relever en entreprenant donc des activités qui tendent à remettre en état les terres dégradées, notamment par des activités de production de plants et de reboisement. Nous en produisons environ 15 000 plants par an pour les activités de protection des berges et nous faisons aussi des récupérations des terres, notamment par les parcelles fourragères, à l'aide donc de la charrue Delfino, là, par l'ouverture des sillons, etc., etc. À cela aussi, peut-être que ce qu'il faut ajouter, c'est les actions un peu transversales. Comme on le dit, la question de la lutte contre la désertification est, en Afrique est liée à la question de la lutte contre la pauvreté.
Mm-hmm. Patrice Burger dit oui de la tête, en vous écoutant.
tant qu'on ne va pas résoudre les questions de capacité, d'adaptation aux activités, ça c'est d'une part, mais aussi d'adaptation au poste de responsabilité, parce que nous sommes dans un contexte de décentralisation intégrale, et c'est normal et c'est très bien que les communes, les élus locaux s'en approprient des problématiques relatives à la gestion de la mare.
Merci Adama Nana.
Merci. Patrice Burger approuve d'ailleurs ce dernier commentaire.
Absolument, et je crois que vous avez tout à fait raison, parce que les autorités locales, les municipalités, les communes sont celles qui vont rester. Elles sont sur le terrain, il faut les aider, il faut les appuyer, et je crois que c'est un grand, grand chantier qui s'ouvre devant nous.
Alors, l'un des moyens de lutter contre la désertification, Patrice Burger, c'est aussi de préserver les arbres.
Oui, bien sûr. Ah,
c'est cette question des arbres est vraiment à la base de...
Alors, bien sûr, le couvert végétal. La désertification, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un processus de dégradation des terres. La dégradation des terres... Si le sol est protégé, et notamment par des arbres, un couvert végétal, c'est sa meilleure garantie de ne pas se dégrader. Dès que le sol se découvre, qu'il est exposé au soleil, à la chaleur, qu'il est exposé à la pluie, à la forte pluie, et qu'il est exposé à l'érosion éolienne, c'est-à-dire au vent, vous avez tout un processus, c'est là que s'enclenche le processus. Et c'est là que vous découvrez après, au bout d'un moment, des vents de sable. J'ajoute que ce processus est en œuvre aussi dans certains pays. Moi, j'ai vu des vents de sable au Canada, parce qu'on avait trop déboisé, on avait labouré trop profond, on avait retourné... voilà, donc le reboisement, c'est extrêmement important, mais d'une manière générale, la couverture du sol, je dirais.
Mais toute la difficulté, évidemment, c'est de sensibiliser la population et de proposer des solutions alternatives à la coupe du bois. Alors nous sommes en ligne avec Christine Niemeng-Cha, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes dans la région Atakora, au nord-ouest du Bénin, qui est une région où toute la population utilise le bois comme principale source d'énergie.
Effectivement.
C'est-à-dire, par exemple, racontez-nous, pour cuisiner.
Oui, disons, plus précisément en Atitengo, nous dirons que pour cuisiner, nous utilisons exclusivement du bois, sinon à 90%. Alors, cela entraîne bien... qu'on puisse aller partout pour chercher du bois, donc c'est ça qui constitue un peu...
Vous me disiez en préparant cette émission qu'avant, quand on sortait de la case, on pouvait ramasser du bois, et maintenant il faut faire des kilomètres.
Effectivement. L'enquête que nous avons menée dernièrement, ce sont les personnes... Et dans les villages, s'il vous plaît, ça c'est pas seulement... c'est pas en ville. Mmh. Dans les villages, les femmes surtout, parce que c'est elles qui vont chercher du bois, elles sont unanimes qu'aujourd'hui, pour trouver du bois... et disons du bon bois, elles doivent parcourir des kilomètres, 2, 3, pour certaines, elles font 10. Parce qu'il faut dire aussi que pour la plupart, elles vivent aussi du commerce du bois. Donc, autre prendre pour faire la cuisine personnelle, elles prennent aussi pour pouvoir vendre et vivre.
Alors justement, vous pilotez un projet pour l'association Materi Pays de la Loire qui sensibilise les populations à l'économie du bois en leur proposant des cuiseurs à bois économiques. Comment ça marche ?
Alors, le but, c'est effectivement de sensibiliser les populations afin qu'elles se rendent compte qu'en prélevant cette quantité de bois sans planifier et sans réfléchir, on va arriver à, je ne dirais pas une catastrophe, mais on n'aura plus de bois pour pouvoir faire la cuisine. Alors maintenant, la solution que, du moins, ce que nous leur proposons, c'est d'utiliser des cuiseurs à bois économique, donc des cuiseurs qui nécessitent pas une très forte et une très grande quantité de bois, parce qu'il faut dire que ici nous aimons bien quand la flamme est vive, par conséquent on met assez de bois dans les foyers
trop
à trois pierres. Or le CBE, avec le CBE, il suffit tout simplement d'utiliser des branchages, de simples branchages, et vous faites la cuisine rapidement et avec peu de bois.
Merci
beaucoup. Christine Niemeng-Cha, merci. Patrice Burger, quel bilan vous tirez de tous ces témoignages ?
Le bilan que je tire depuis maintenant pratiquement une quinzaine d'années au service des terres arides, et notamment par le biais de nos interventions en matière d'agriculture écologique, agroécologique, c'est qu'il y a énormément de monde qui s'active sur le terrain.
Comme on vient de l'entendre là, avec les cuiseurs économes en bois, par exemple, c'est une très bonne idée.
Qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent des exploits avec de petits moyens et qui ne sont pas assez soutenus. Donc je crois que les solutions, elles sont tout à fait là, elles existent, mais il faudrait vraiment un soutien à la fois au niveau des politiques nationales. Quand je dis politique nationale, c'est faire remonter cette affaire dans les priorités nationales. Comme disait une jeune malienne l'autre fois, elle disait, si vous ne vous occupez pas de la désertification, c'est la désertification qui va s'occuper de vous.
Ce sera le mot de la fin, Patrice Burger. Non, vous voulez rajouter un petit truc, quelques secondes?
Oui, je voudrais deux petits commentaires. Le commentaire sur la Norvège, c'est que la Norvège est un pays très riche et c'est un pays qui fait quelque chose. Ça veut dire que les riches peuvent aussi se mobiliser. C'est une bonne nouvelle. La deuxième nouvelle, elle est moins bonne, c'est que COP9 en Argentine a été un peu une occasion presque un peu manquée, mais je crois qu'il faut faire retrouver du souffle. Il faut retrouver du souffle dans cette convention.
Merci Patrice Burger. Demain, nous irons au Bénin où les femmes essayent de restaurer la mangrove.
À demain donc, même planète, même heure.